VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Il est 17h à Conakry, 19h à Bujumbura. Heureux de m'installer à vos côtés pour ce tour d'horizon de l'actualité en ce vendredi 3 juillet. L'Angola est un appui pour la France, a souligné aujourd'hui à Luanda le président français François Hollande. Après des entretiens avec son homologue José Eduardo dos Santos, de son côté, le président français a confirmé une volonté commune de resserrer les relations. Le chef de l'État français arrivé du Bénin jeudi soir au début de sa tournée africaine est attendu en fin d'après-midi au Cameroun où le groupe islamiste nigérian Boko Haram a multiplié les attaques dans l'extrême nord. Si ces derniers mois le Niger et le Tchad ont envoyé des soldats au Nigeria, le Cameroun a combattu Boko Haram uniquement sur son propre territoire. Scène de désolation dans plusieurs quartiers somaliens suite au retrait de la force de l'Union africaine, le retrait de la MISOM qui survient après l'attaque la plus meurtrière perpétrée par les islamistes laisse le terrain libre au Shabab. Le point avec Eddie Sango.
Les drapeaux des Shabab flottent désormais dans certaines localités somaliennes, notamment celle de Koriolei, à 80 km au sud-ouest de la capitale Mogadiscio. Avec Audegel, Koriolei est l'un des quartiers de la région méridionale de Basse-Chabelle, d'où les casques verts se sont retirés. Les habitants affirment que les combattants Shabab sont entrés dans la ville. Le préfet du département d'Audegel, Mohamed Aweis, a lui-même affirmé avoir quitté la ville, rapporte l'AFP. Les casques verts sont depuis un certain temps la cible des Shabab, qui revendiquent dans une vidéo montrant plusieurs cadavres avoir tué la semaine dernière près de 80 soldats de la force africaine. L'ennemi fuit la région. C'est le début de la chute des envahisseurs chrétiens, a déclaré le combattant Shabab Mohamed Abou Abdallah à l'AFP. Chassés de la plupart de leurs bastions du centre et du sud somalien, les Shabab multiplient désormais les opérations de guérilla contre les institutions somaliennes et la MISOM qui compte 22 000 hommes.
Attaque meurtrière contre les casques bleus au Mali. La représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies, Samantha Power, a vivement condamné l'attentat de jeudi qui a coûté la vie à 6 soldats burkinabés. L'embuscade a eu lieu près de Tombouctou dans le nord du pays. 6 soldats du Burkina Faso ont été tués et 5 autres blessés. Dans ce communiqué, les États-Unis appellent le gouvernement du Mali à enquêter immédiatement sur l'incident pour retrouver les responsables. Pour les États-Unis, ces attaques terroristes menacent la stabilité du nord du Mali et le bien-être de tous les Maliens et exhorte les parties maliennes signataires de l'accord de paix à rester unies contre toutes les tentatives visant à saper la marche du pays vers la paix.
VOA Afrique en direct de Washington.
Vous écoutez VOA Afrique. Nous poursuivons ce journal. Le président burundais, Pierre Nkurunziza, a tenu aujourd'hui un nouveau meeting de campagne sous haute sécurité dans un fief de l'opposition, rapporté des témoins à l'AFP. Ce meeting est un signe de plus de la volonté du pouvoir burundais de poursuivre coûte que coûte les élections générales qui ont débuté lundi avec des législatives et communales en dépit d'une avalanche de critiques de la communauté internationale et d'un boycott de l'opposition. Conséquence de l'entêtement du pouvoir burundais, les États-Unis ont suspendu certains programmes d'aide au Burundi. Le point avec Camille Grosdidier.
À l'origine de cette décision, les abus commis par la police durant les manifestations suscités par la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat à la tête du pays, mais également la décision du gouvernement burundais de procéder à des élections législatives qualifiées d'imparfaites par la diplomatie américaine. Dans un communiqué, le département d'État estime que la décision du président Nkurunziza de se représenter à la présidentielle a entraîné des dizaines de morts, provoqué un exode massif du pays et endommagé l'économie. Les opposants du président affirment que sa décision de briguer un troisième mandat enfreint la constitution burundaise. Par ailleurs, les Nations Unies ont estimé que le scrutin législatif et communal de lundi au Burundi est dénué de toute crédibilité. La mission d'observation électorale de l'ONU a relevé en particulier un climat de peur et d'intimidation et des violences à Bujumbura avant et pendant les élections.
Les dirigeants des pays de la communauté est-africaine, EAC, vont tenter une nouvelle fois lundi de dénouer la crise politique burundaise. Un nouveau sommet, le troisième sur la crise de ce pays, se tiendra à Dar es Salaam, en Tanzanie. Les chefs d'État de la région vont faire une évaluation du dossier burundais depuis leur dernier sommet, a simplement déclaré Otieno Owora du secrétariat de l'EAC, regroupement régional qui comprend le Burundi, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Et le dossier de ce journal, une autre crise financière mondiale se profile à l'horizon et le monde n'y est pas préparé. L'Afrique encore moins, c'est le constat établi cette semaine par des économistes et experts financiers réunis à l'université de Cape Town en Afrique du Sud pour visionner le nouveau documentaire de Terry Jones sur la question. Timothée de Nangmaï a recueilli à ce sujet l'analyse de l'économiste Demba Moussa Dembélé, président de l'ONG Arcad à Dakar, pour qui tous les pays africains ne sont pas logés à la même enseigne.
Moi, je dirais qu'il y a deux catégories de pays africains. La première catégorie, ce sont les pays qui suivent les prescriptions, les conseils de la Banque mondiale, du FMI, de l'OMC, dans la voie de la libéralisation à outrance, tant au niveau du commerce qu'au niveau des flux de capitaux. Ces pays, il est évident que s'il y a une crise, ils seront emportés par la bourrasque parce qu'ils n'auront pas les moyens de se défendre parce qu'ils seront trop ouverts et l'État sera tellement affaibli pour intervenir que ces pays seront engloutis par la crise, ça c'est sûr. Mais il y a une autre catégorie de pays qui essaient d'avoir des politiques beaucoup plus souveraines, beaucoup plus axées sur l'intervention de l'État et moins de libéralisation, de protéger leur marché et de prendre des décisions qui sont plus conformes à leur réalité plutôt que de suivre les conseils des institutions financières internationales.
On avait dit durant la crise de 2008 que l'Afrique avait été épargnée du fait de sa contribution marginale au commerce mondial. Qu'est-ce qui a changé en Afrique depuis 2008?
En 2008, quand on a dit que l'Afrique a été épargnée, c'est parce qu'on disait qu'elle n'était pas trop connectée aux marchés financiers internationaux. À part peut-être l'Afrique du Sud, le Nigeria et quelques petits autres pays, si vous voulez. Cette question de commerce international, l'Afrique, c'est l'une des régions du monde les plus ouvertes au commerce international. C'est-à-dire que si on prend la contribution du commerce international à son PIB, l'Afrique pratiquement est à 51-52%. Donc si on dit 2%, ça n'a pas tellement de sens. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont beaucoup plus de poids dans le commerce international. Mais quand on compare l'impact du commerce international dans le revenu, cet impact est assez faible. C'est comme les États-Unis, je crois que ça ne fait pas plus de 10%. C'est surtout le marché intérieur qui est la principale source de croissance. Pour beaucoup de pays africains, c'est le commerce parce qu'on compte sur les exportations de matières premières pour avoir des devises avec lesquelles on paye la dette et on paye les importations.
L'économiste Demba Moussa Dembélé, président de l'ONG de recherche Arcad, jointe à Dakar.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Dans le cahier international, le chef de cabinet du président iranien Hassan Rouhani s'est rendu aujourd'hui en mission spéciale à Vienne pour participer aux ultimes jours de négociations nucléaires avec les grandes puissances. Selon l'agence officielle iranienne IRNA, ce voyage est une mission spéciale durant laquelle il doit avoir les consultations nécessaires avec la délégation qui tente de parvenir à un accord global sur le nucléaire de Téhéran avec le groupe 5+1. Les deux parties ont jusqu'à mardi pour sceller cet accord qui garantirait la nature pacifique du programme nucléaire de Téhéran en échange de la levée des sanctions internationales qui frappent l'économie iranienne. Au Yémen, 13 rebelles chiites, houthis et 8 combattants pro-gouvernementaux ont été tués dans des affrontements et des raids aériens de la coalition sous commandement saoudien. De violents combats se poursuivaient ce vendredi. La situation humanitaire est qualifiée de catastrophique à Aden. Et puis en Grèce, plus que 2 jours avant le référendum de dimanche sur les conditions de remboursement de la dette nationale suggérée par l'Union européenne. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous tout à l'heure dans 20 minutes avec Le Monde Aujourd'hui. Pour vous retrouverez Morgane Guériec et Idrissa Seydoudia. C'était Jacques Arestri de Washington. Très bon week-end sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.